Christ parmi nous, chers amis, ce matin qu'ensemble il nous accorde sa grâce. Voilà, je voudrais vous inviter à faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 47. Nous lirons un seul verset, même la moitié du verset, et puis il y en a d'autres qui suivront tout à l'heure de versets. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Voilà, il est écrit ceci, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Amen. « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ce qui me plaît bien dans ce verset, c'est le « et ». Parce que « et », c'est en relation avec ce qui précède. Et vous lirez à la maison ce qui précède et vous verrez que ce qui précède a pour conséquence qu'en effet, « et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En tout cas, c'est un beau verset. Amen. Et il y a là, comment dire, une perspective qui est tracée pour nous. Le Seigneur ajoutait, dites-moi, chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Donc, si nous voulons être dans la norme biblique, il faut que nous ayons au moins 365 conversions par année. Mais oui, le Seigneur ajoutait chaque jour, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. En tout cas, à cette époque-là, c'était la norme. Quel beau verset, toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce que Dieu a sa stratégie. Il n'agit pas n'importe comment. Il n'agit pas, comme on dit au petit bonheur, la chance. Non, il a une stratégie, il a un plan, il a un projet. Et de siècle en siècle, et de millénaire en millénaire, et ce depuis l'éternité, jusqu'en l'éternité, il s'applique à mettre en œuvre ce projet. Ce projet, c'est le suivant, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Puisque l'Écriture dit dans l'Épître à Timothée que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça ne signifie pas que tous le seront, parce que Dieu respecte notre libre arbitre, notre choix, n'est-ce pas ? Il ne nous sauve pas malgré nous, il ne nous contraint pas, mais il nous propose, il nous offre sa grâce, et si nous l'acceptons, eh bien nous y participons, n'est-ce pas ? Et nous devons, nous chrétiens, nous qui sommes déjà convertis, qui appartenons à Jésus, qui sommes héritiers du salut, en espérant, nous devons intercéder pour que cet objectif soit atteint et que le plus grand nombre soit sauvé. Ici, à Annecy, dans le département de la Haute-Savoie, dans notre beau pays de France et dans le monde entier. Tel est le désir du Seigneur. Mais les choses, vous l'avez remarqué, ne s'arrêtent pas là, parce qu'il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Ce verset, si je comprends bien, se répartit en deux points. D'abord, il est question d'être sauvé, et si ce matin quelqu'un ne l'était pas, eh bien, chers amis, prenez garde à l'invitation que le Seigneur vous a adressée au travers des dons spirituels. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et que quelqu'un, que quelques-uns qui n'ont pas encore reçu cette grâce puissent ouvrir leur cœur et dire, mais Seigneur, pourquoi attendre davantage ? Je veux te recevoir comme mon sauveur. Mais après avoir été sauvé, il est nécessaire, il est impératif de comprendre cette règle que Dieu a établie, c'est que les sauvés doivent être ajoutés à l'Église. Amen. Qu'est-ce que c'est l'Église ? L'Église, c'est dans le sens spirituel, bien sûr, l'épouse bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ. Épouse bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ. Et la stratégie divine, revenons-y, c'est que ceux qui sont sauvés soient ajoutés à l'Église. Le but étant qu'un jour, dans le royaume des cieux, il y ait une foule innombrable de rachetés par Christ. C'est ce que nous présente le livre de l'Apocalypse. Je pense que vous connaissez ce texte. Au chapitre 7, il est dit ceci. Après cela, je regardais. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il est dit, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau, C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, servent Dieu jour et nuit dans son temple. Amen. Voilà, nous sommes là en éternité, nous sommes là dans le ciel. Voilà le but atteint, n'est-ce pas? Le projet du Seigneur, donc, c'est la croissance de l'Église. Moi, ça me fait pâlir d'envie, ce verset. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Croissance de l'Église en qualité. Et puis, croissance de l'Église aussi en quantité. Alors, parfois, on a dit, et peut-être je les ai dites moi aussi, des stupidités. Vous savez, on a dit, oh, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est faux! Parce qu'on peut avoir les deux, mes amis. Amen. Eh oui, dans le livre des Actes, toujours au chapitre 9, au verset 31, voici ce que je lis pour vous. L'Église était en paix, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Voilà pour la qualité. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pour la quantité. Ainsi, voyez-vous, il y avait ce développement harmonieux, il y avait, n'est-ce pas, l'équilibre, il y avait la vraie spiritualité, la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour du Seigneur, et puis le nombre des disciples allait toujours, toujours s'augmentant, et c'est toujours le projet du Seigneur. Alors, on pourrait se poser la question suivante quand on lit ce verset, Actes chapitre 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. S'agit-il de l'Église universelle, comme disent les théologiens, ou de l'Église locale? Qu'est-ce que c'est que l'Église universelle? L'Église universelle, c'est le rassemblement, tiens pardi, universel de tous ceux qui sur la face de la terre, en quelque dénomination qu'ils soient, appartiennent de cœur au Seigneur Jésus, qui se sont convertis. Ça, c'est l'Église universelle. Et puis l'Église locale, eh bien, c'est le rassemblement sur le plan local, n'est-ce pas, des disciples de Christ qui sont dans telle ou telle localité, dans telle ou telle ville. Alors, au début, les deux étaient confondus, puisque l'Église de Jérusalem, au tout début, eh bien, c'était à la fois l'Église locale et l'Église universelle, puisque ça se limitait à ça. Mais très rapidement, il y a eu une extension qui nous est présentée justement tout au long du livre des Actes des Apôtres, d'abord en Judée, puis en Samarie, un petit peu plus loin. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le ministère de l'évangéliste Philippe. Les gens se sont convertis, les apôtres de Jérusalem ont débarqué, ils ont prié pour ces nouveaux convertis, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, etc., etc. Puis ça s'est transporté un petit peu plus loin, jusqu'à Antioche, en Syrie, etc., etc. encore, et un petit peu partout, dans le monde connu, dans le bassin méditerranéen à cette époque-là, notamment par le ministère de l'apôtre Paul, mais aussi le ministère d'autres hommes de Dieu. Et nous en sommes là. Et aujourd'hui, béni soit Dieu, l'Église de Christ est répandue sur la face de toute la terre. Ça ne veut pas dire que tous les peuples sont encore atteints. Non, non, non. Parce qu'il y a encore des peuples, des nations, des ethnies qui n'ont pas encore été atteintes ou fort peu par le message de l'Évangile. Mais enfin, on peut résumer les choses de la manière suivante, schématiquement, globalement, on peut dire que l'Église universelle, c'est l'addition de toutes les églises locales. Vous me suivez? L'Église universelle, c'est la somme, c'est l'addition de toutes les églises locales. L'église d'Annecy, plus l'église d'Albertville, plus l'église de Grenoble, plus l'église de Paris, plus l'église de New York, plus l'église, je ne sais pas moi, de Kinshasa, plus l'église de d'ailleurs, etc., etc. En tout cas, les églises locales où la saine doctrine est annoncée, n'oublions pas ça. Et où non seulement où elle est annoncée verbalement, mais où on s'efforce, avec la grâce de Dieu, de vivre selon la doctrine qui est enseigné dans les Saintes Écritures. Et la volonté de Dieu, c'est donc que chaque chrétien, chaque vrai disciple de Jésus, réellement né de nouveau, chaque chrétien se doit, selon la volonté de Dieu, d'appartenir à une église locale. Vous dites amen ? Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a donné sa vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et au verset 52, je lis ceci, n'est-ce pas ? Jésus devait mourir pour la nation, dit le texte, et ce n'était pas pour la nation juive en l'occurrence seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu restent dispersés, ça veut dire chacun dans son coin. Il ne le veut pas, il ne le veut tellement pas, que pour qu'il ne soit pas, pour qu'il ne soit plus dispersé, eh bien Christ a donné sa vie sur la croix. Nous ne devons pas oublier ce point important du sacrifice de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une pensée qui va dans la même direction. Voilà, l'apôtre Paul réunit autour de lui les anciens, c'est-à-dire les pasteurs, de l'église locale, disons-le comme ça, d'Éphèse. Et au chapitre 20 du livre des Actes, au verset 28, il exhorte ses responsables spirituels de l'église locale d'Éphèse en leur disant « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, pour paître l'église du Seigneur. » Écoutez ça. L'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église d'Éphèse avait été fondée sur la base du sacrifice de Jésus, de son sang versé à la croix du calvaire. Et vous savez quoi ? L'église d'Annecy, notre église, elle existe aussi, eh bien, sur la base du sacrifice de Jésus. Elle a été fondée, établie. C'est vrai, Dieu s'est servi de tel ou tel serviteur de Dieu, mais essentiellement construite, cette église sur le fait que Christ se l'est acquise. Elle lui appartient par son propre sang. Quelque chose s'est passé, mes amis, pour que nous soyons là ce matin. Christ est mort sur la croix. Christ est mort sur la croix. Nous ne devons pas oublier cela. Alors, la conséquence à en tirer, c'est que vouloir prétendre appartenir à l'Église universelle, comme disent certains, sans vouloir appartenir à une Église locale, c'est faux. Ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, c'est trompeur, c'est illusoire, c'est même dangereux, et en tout cas c'est une désobéissance flagrante à la parole du Seigneur. Je dis, je le répète, la volonté de Dieu, c'est que chaque chrétien appartienne à une église locale. Acte chapitre 2, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, j'y reviens souvent. Pour que les églises grandissent, et je parle là d'un accroissement numérique, donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut deux choses. D'abord, il faut que ceux qui n'en font pas encore partie puissent y venir et s'y convertir. Voilà, il nous faut de nouvelles conversions. Amen. Si on veut que l'Église grandisse, non ? Pour que des gens de l'extérieur soient gagnés à la cause de Christ, viennent écouter le message de l'Évangile, n'est-ce pas ? Que l'Évangile soit prêché avec l'autorité, l'onction, la puissance du Saint-Esprit, démonstration de force et de grâce de la part de Dieu, prier pour que les prédicateurs soient revêtus de l'onction divine, gagner aussi par notre témoignage personnel. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement un pasteur, un évangéliste qui annonce Christ dans une réunion publique, c'est aussi le travail, le job, la responsabilité de chaque croyant qui, là où il est, dans son quartier, soit en voisinage, sur son lieu de travail, son bureau, son usine, son atelier, son université, son collège, son lycée, sa famille, puisse annoncer Christ et qu'ainsi des âmes soient gagnées. Ça, c'est l'évangélisation. Mais pour que l'Église grandisse, eh bien, il est nécessaire que ceux qui en font déjà partie ne s'en détachent pas. Amen. J'y suis, j'y reste. C'est aussi simple que ça. Et il y a quand même ce verset, je sais qu'il est souvent cité par les prédicateurs, surtout quand ils sont fâchés, hein, ce n'est pas mon cas ce matin. Hébreux chapitre 10, verset 24, voici ce qui est dit. Hébreux chapitre 10, verset 24, ce n'est pas interdit que vous le lisiez avec moi. Hein. Hébreux chapitre 10, verset 24, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter ». Il y a une bonne excitation là, hein, à la charité et aux bonnes œuvres. Écoutez ça. N'abandonnons pas notre assemblée, notre église, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour ? Le jour du retour du Seigneur. Et il est dit que dans cette perspective, dans cette pensée, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Voyez ? Notre appartenance à l'église locale, qui doit être le lieu privilégié de notre enracinement dans la foi, nous permet de pouvoir veiller les uns sur les autres. Ça, c'est notre sauvegarde. J'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. Pas seulement parce que je suis votre pasteur, mais sur le plan individuel, voyez. Parlons pas de pasteur là, parlons de croyants, de chrétiens. J'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. Si vous me voyez prendre une mauvaise trajectoire dans ma vie spirituelle, vous devez veiller sur moi. Et avec amour, me dire, oh frère, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Veillez sur moi. Et moi de même, si je vous vois dévier par rapport à la bonne trajectoire, je dois aussi gentiment venir vous reprendre avec amour. Et ainsi, nous assurons notre sauvegarde mutuelle. Nous ne nous surveillons pas, mais nous veillons les uns sur les autres. Hein? Quand on surveille, on est suspicieux. Quand on veille sur, on est plein d'amour, plein de compassion, plein de sollicitude, plein de bienveillance. Il dit même que dans l'église locale, eh bien, on apprend à s'exciter à la charité, aux bonnes œuvres. Il y a une stimulation, voyez, une émulation. Moi, je bénis Dieu parce que, eh bien, dans ma jeunesse, j'ai eu des frères dont la plupart étaient mes aînés, hein, et en les voyant vivre, en les entendant prier, en les voyant servir le Seigneur, rendre témoignage. Oh, ça m'a boosté, comme on dit aujourd'hui. Ça m'a donné envie d'être comme eux. Parce que je voyais que c'était bon. Il faut qu'il y ait cette émulation mutuelle. N'est-ce pas? Et ça se produit dans l'église locale. Dans l'église locale. Et puis, il est dit que nous devons nous exhorter aussi dans l'église locale. Réciproquement, c'est quoi s'exhorter? C'est s'encourager. C'est se consoler mutuellement quand nous sommes éprouvés. Alléluia. Vous savez, on peut faire beaucoup de bien avec pas grand-chose. Un simple sourire. C'est Job qui dit, je leur souriais quand ils étaient découragés. Un bon mot, une parole. Il ne faut pas arriver avec quelqu'un qui est cassé par l'épreuve en lui disant, t'as qu'à avoir la foi. On ne l'exhorte pas, là, on l'assassine. Hein? Si tu penses qu'il n'a pas la foi, tu n'as qu'à avoir la foi pour lui. Mais s'exhorter, s'encourager, se consoler mutuellement, vous comprenez? Ça, on le trouve. Alléluia, on le trouve dans l'église locale. On l'y trouve, même si on doit faire des progrès. Et remarquez ceci, déjà à l'époque, hop, hop, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il hein? y a 2000 ans. L'homme de Dieu dira, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Hélas, déjà, à l'époque, et ça dure encore. Vous savez, la stratégie de Satan, parce que j'ai parlé de la stratégie de Dieu qui veut sauver, mais la stratégie de Satan, il a la sienne, c'est de détacher les croyants de l'Église. Pourquoi? D'abord parce qu'il est l'Église, les Églises et ses membres. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est un peuple à part. L'Église est constituée de gens qui ne sont plus sous sa domination, alors que le monde entier gît sous la puissance du malin. Ceux qui font partie de l'Église de Christ d'une manière véritable, authentique, parce qu'ils sont convertis, nés de nouveau, ils ont échappé à son emprise. L'Écriture dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! Nous ne sommes plus sous sa coupe, même s'il vient nous titiller, nous ne sommes plus sous sa coupe. Et il ne peut pas supporter ça. Alors il veut saper le travail, liquider l'Église, la détruire, mais Jésus a dit que les portes de l'enfer ne pourraient prévaloir contre elle. Et parce qu'il est l'Église et ses membres, eh bien il nous est présenté par le Seigneur Jésus lui-même, le diable, comme un voleur. Un voleur. Jean chapitre 10, verset 10, vous savez, quand Jésus parle du bon berger, qu'il est, il parle aussi du voleur. Et il dit ceci, le voleur, c'est le diable, c'est lui là, ne vient que pour dérober, écoutez ça, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Seigneur nous veut dans une vie d'abondance, spirituelle, morale. Mais le diable, lui, c'est un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Eh oui, son but c'est de détruire les églises et pour ce faire, de ravir les brebis du Seigneur, de les séparer, de les isoler du troupeau pour finalement les perdre. Les perdre. Parce que si nous avons échappé à son emprise, eh bien sa pensée c'est de faire tout en sorte qu'il puisse nous récupérer. Oh, si nous restons attachés au Seigneur, près de lui, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Mais si nous nous détachons un temps soit peu, et du Seigneur, et de l'Église, du Seigneur, alors nous sommes terriblement en danger. Vous savez, il est très rusé. Vous savez que le diable est plus malin que nous. Il est d'une intelligence supérieure, mes amis. Nos petits neurones, à côté des siens, c'est la bagatelle. Hein? Et il diversifie ses pièges pour nous séparer de l'Église. Et je vais mentionner ce matin quelques-uns des pièges sataniques qu'il a élaborés, peut-être pas tous, parce qu'il y en a certainement un grand nombre. Premier piège, c'est s'efforcer d'introduire dans le cœur des croyants, pour toutes sortes de raisons, le raisonnement suivant. J'abandonne l'Église, mais je n'abandonne pas le Seigneur. Vous l'avez pas entendu celle-là déjà ? Eh oui, mais il faut comprendre que l'isolement nous rend vulnérables, nous fragilise par rapport à la tentation. C'est pour ça que dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 1er, je vous ai déjà lu ce verset, il est dit... Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Le texte littéral dit ceci, il montre les dents à tout ce qui est sage. Celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît, non pas ce qui plaît à Dieu, ce qui lui plaît. Et il s'irrite ou il grince des dents contre tout ce qui est sage. Et cette pensée est reprise sous une autre forme dans l'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 9, où le Seigneur dit ceci par la bouche de Salomon, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Amen. Mais malheur à celui qui est seul parce qu'il s'est isolé, et qui tombe, et qui n'a personne pour, sans avoir un second pour le relever. Et un peu plus loin, verset 12, il est dit, « Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. » Amen. Et la corde à trois fils ne rompt pas facilement. Vous voyez, il y a toi, il y a moi, et puis il y a le Seigneur. Donc ça fait trois cordes, hein, trois bouts, trois ficelles qui, nouées ensemble, eh bien, nous permettent de tenir bon, de tenir bon. Alors, évitons, n'est-ce pas, de tomber dans ce raisonnement, j'abandonne l'Église mais pas le Seigneur. Deuxième piège consiste à aller d'église en église. 6 mois ici, 1 an là-bas, quelques années plus loin, et puis ainsi, d'une communauté à l'autre. Certes, il peut y avoir parfois, des justifications pour quitter une église. Si, par exemple, elle ne prêche plus la saine doctrine, ou bien si elle tolère, même si elle pactise avec le péché. Vous savez que dans certaines communautés protestantes aujourd'hui, on pactise avec le péché. Puisqu'il y a, il faut le dire, quoi, c'est de notoriété publique, hein, dans certaines communautés protestantes, pas toutes, il est vrai, mais certaines, on s'apprête à célébrer l'union entre un homme et puis un homme. Ou une femme et puis une femme. Ça, c'est clair, ça s'appelle une abomination. Alors, je ne sais pas, moi, mais si je faisais partie, je prends la responsabilité de ce que je dis et tu peux le laisser sur l'enregistrement. Si je fais partie d'une telle église, ce n'est pas le cas, hein, béni soit Dieu. Mais j'en sors sur le champ. Parce que Dieu ne peut pas être d'accord. Et l'Esprit de Dieu ne peut être que attristé au plus haut point par une telle abomination, une telle perversion. Vous voyez, je l'ai déjà dit, à l'égard de l'homosexualité, on doit être prêt à accueillir, pour prier pour ces gens-là, les accueillir dans l'amour, leur montrer le chemin de la repentance et de la délivrance, et non pas les encourager dans leur pratique, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une action abominable aux yeux de Dieu. Mais en dehors de ça, en dehors de tel cas, donc, abandonne la saine doctrine ou pacte passé avec le péché, ben, c'est une erreur que d'aller d'église en église. J'ai connu des gens comme ça, voyez, qui ont fréquenté telle communauté un temps, puis une autre, puis finalement, ils n'ont plus été ailleurs, n'importe où, parce qu'ils trouvaient à redire à chaque communauté qu'ils avaient fréquentée. C'est une erreur. C'est le deuxième piège. Il y a un troisième piège qui ressemble étrangement au précédent. C'est ceux qui sont des sans-église fixe. Vous voyez, on a des sans-domicile fixe, hélas. Eh bien, il y a des gens qui sont sans-église fixe et qui le revendiquent. Ils vont ici ou là selon l'humeur du jour, sans aucune attache fixe. Dimanche matin, je vais à l'Assemblée de Dieu. Le dimanche d'après, je vais dans telle autre communauté évangélique. Je ne parle pas là de ceux qui sont en congé ou de passage. Hein. Le troisième dimanche, je vais encore ailleurs, etc. Je fais un peu comme les papillons, vous voyez, qui butinent ici ou là. C'est un piège. C'est une erreur. Parce que ça signale quoi, ça? Ça signale que l'on refuse de s'engager, de s'investir dans une église particulière. Ça signale qu'on n'est pas prêt à participer à l'effort commun de telle ou de telle autre communauté pour qu'elle se bâtisse. Ça signale un individualisme égoïste qui est contraire à l'esprit de la parole de Dieu. Parce que quand on est un enfant de Dieu, c'est pas le chacun pour soi. Et Dieu pour tous, c'est chacun pour les autres. Et les autres pour chacun. C'est pas ça? Jésus a dit, aimez-vous les uns, les autres. C'est pas sens unique, ça. C'est pas aimez-moi les uns les autres. C'est aimez-vous les uns les autres. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas, de réciprocité dans l'exhortation, dans l'encouragement, etc. C'est le refus de la solidarité. Or, il est écrit quand un membre souffre, mais tous les membres souffrent avec lui. Quand un membre est honoré, réjoui, tous les autres se réjouissent aussi avec lui. Mais comment voulez-vous connaître les membres et s'associer ou à leur joie ou à leur peine si on joue les papillons qui butinent ici et là sans cesse? Ça ne marche pas comme ça. C'est le refus de l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, j'espère que vous n'êtes pas de cela, qui refusent l'autorité des responsables spirituels, des anciens, des pasteurs, des évêques. Ça ne leur plaît pas, ça. Alors tant qu'on est tout sourire, tout mielleux, ça va. Le jour où le pasteur fait une réflexion qui est certainement justifiée, non pas pour écraser, mais pour essayer d'amener un progrès spirituel, alors ça leur déplaît, puis ils claquent la porte. Le refus de l'autorité, vous voyez, c'est un signe de la fin des temps, ça. C'est à tout niveau, vous avez remarqué que l'autorité est contestée. Si vous parlez avec les enseignants, leur autorité est contestée, même les tout-petits, hein. L'autorité est contestée par rapport aux forces de police, hein. Avant, on avait peur du gendarme. Maintenant, c'est le gendarme qui a peur du voleur. Parce qu'il y a le refus de l'autorité. C'est vrai au niveau du gouvernement, qu'il soit d'un bord ou d'autre, on refuse l'autorité. Et cet état d'esprit, c'est le monde. Et parfois, ça se retrouve parmi les chrétiens. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et puis, être sans église fixe et le revendiquer, finalement, c'est une forme d'orgueil. Et vous savez, l'orgueil, dit la Bible, précède la chute. Précède la chute. Voilà pour le troisième piège. Il y en a encore un quatrième que je signale. On ne démissionne pas officiellement. Et comme on l'entend parfois, je prends du recul. Je prends du recul. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Je sais. Que parfois dans l'église, il faut le reconnaître. Hein. L'église n'est pas parfaite. C'est pas vrai? Les chrétiens ne sont pas parfaits. Et les pasteurs non plus. Vous n'allez pas dire amen, hein? C'est pourtant vrai. Alors, parfois on a été déçu. Ça ne devrait pas, mais ça se produit. On a peut-être même été meurtri dans l'Église et par l'Église, tout au moins par certains membres de l'Église. Et comme on a été blessé, déçu, meurtri, qu'on en a conçu de la douleur, parfois une douleur vive, pour éviter de nouvelles souffrances, on reste discret, plus même, on reste distant et on refuse de s'impliquer dans la vie de l'Église. On est là sans y être tout en y étant. Vous comprenez ça? Un petit peu comme Pierre, dont il est dit qu'il suivait Jésus, mais de loin. Il suivait, mais de loin. Et ça a mal fini, il a renié Jésus à 3 reprises. Si quelqu'un en était là, la réponse que le Seigneur veut vous apporter, je crois, c'est celle-ci, c'est que il veut vous guérir. Des blessures que peut-être vous avez contractées de par vos frères et sœurs, voire par un pasteur. Il veut vous restaurer. Il veut vous faire du bien. Et pour que aussi les dons, les talents, les capacités que vous avez reçus du Seigneur puissent s'exprimer à nouveau au service de l'Église, au service du Seigneur et pour sa gloire. Alors c'est vrai que dans l'Église qui est imparfaite, c'est là-haut qu'elle sera parfaite. On peut connaître des douleurs, mais on peut connaître quand même aussi de grandes joies. Alléluia. Vous voyez ce matin-là, hein, on a un culte tout simple, quoi. La Sainte Cène, les louanges, les prières, le don spirituel, la prédication. On a envie de dire, entre guillemets, hein, c'est ordinaire. Mais moi, ce matin, je me suis fait du bien, là. J'ai apprécié la présence de Dieu. C'est bon d'entendre ce frère, cette sœur, louer le Seigneur. Ça fait du bien. Alors, c'est vrai, vous savez, depuis un certain nombre d'années que je sers le Seigneur. Des coups, hélas, dans l'Église, j'en ai pris. Je suis plein de cicatrices. Morale. Mais dans l'Église aussi, j'ai connu de grandes joies. Et j'en connais encore, alléluia. Et j'ai vraiment pas envie de m'en détacher. Mais je veux appartenir et continuer d'appartenir à l'église du Seigneur. Et puis aussi, il n'y a pas que sur la terre aussi. Si dans notre église locale, nous servons fidèlement le Seigneur, eh bien, un jour dans l'éternité, nous serons récompensés, alléluia, il faut y penser, en fonction de la fidélité que nous aurons manifestée dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, on arrive au terme de notre réflexion, hein, et que ces quelques paroles nous aident ou vous aident à déjouer les pièges, ceux-là et puis d'autres, parce qu'il y en a tout plein d'autres, hein, les pièges que le diable voudrait placer sur votre route pour vous persuader de vous écarter. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Écoutons une dernière exhortation du Seigneur qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 8. Il est dit ceci, « Soyez sobres !» Il ne s'agit pas là simplement de sobriété quant aux boissons alcoolisées, mais sobriété, équilibre, modération, sagesse dans la gestion de notre vie. Soyez sobres, veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors il n'est pas dit trembler de peur devant lui. Il est dit résistez-lui avec une foi ferme. Amen, c'est aussi ça la foi, vous voyez, de dire non, tu mourras pas Satan avec tes boniments, tes histoires, tes pièges, tu mourras pas parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse.